Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref. Autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. C'est vraiment une énergie plus forte que nous qui nous emporte et qui fait que ce pays a, je sais pas, une touche de spiritualité, une émulsion de tous les sens qui fait que, waouh, on est pris dans les tripes. Bon, cette fois, c'est la bonne. Bonjour à tous. Toujours gênant de faire ce petit bonjour au début pour enclencher l'épisode. Mais je suis trop heureuse d'enregistrer, enfin, après un mois et demi sans avoir parlé au micro. Je me réjouis trop parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et en plus, là, je suis dans un cadre incroyable puisqu'il y a du soleil. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu de soleil. Il est en train de chauffer mon visage et pas qu'à moitié. Je suis à New Delhi sur le toit d'une terrasse. Et ce qui est plus incroyable encore, c'est pas tant d'avoir le soleil, bien qu'on ne l'ait pas vu depuis très longtemps, mais c'est surtout que je puisse voir au loin. Parce que New Delhi, vous devez le savoir, mais c'est quand même une ville très 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 polluée. Et on y est passé il y a une semaine. Et c'était trois fois plus pollué que ça l'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça l'est encore relativement beaucoup si on compare à la France. Mais on arrive à quand même voir à plus de... Je dirais des bêtises, mais à plus de 500 mètres, je pense. Donc c'est assez plaisant. Voilà, donc il va y avoir des petits bruits, peut-être de klaxons. Je crois qu'il y a une prière là qui est en train de se faire en bas. Il y a un parc juste en dessous de la terrasse. Il y a beaucoup d'oiseaux qui piaillent, toujours. Il y a toujours les oiseaux qui accompagnent mes podcasts. Ça fait des petits bruits de fond. Donc voilà, le décor est planté, je suis hyper heureuse d'enfin prendre le micro pour faire ce petit point d'étape sur l'Inde puisque ça fait déjà un mois et demi qu'on est arrivé en Inde et tout est allé très 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 vite. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on a atterri sur le territoire indien, instantanément le temps s'est distordu, je sais pas trop ce qui s'est passé avec le temps mais là le mois et demi qui s'est écoulé il m'a complètement échappé et à la fois j'ai vraiment l'impression que ça fait... 6 mois qu'on est là, tellement on vit des journées intenses, tellement on a traversé des kilomètres, puisqu'on est arrivé donc dans le Kerala, dans le sud de l'Inde. C'est une province que je connaissais pas du tout. Pour ceux qui suivent peut-être depuis peu de temps, moi j'ai déjà été en Inde il y a 8 ans. J'avais été dans le Rajasthan et c'est un voyage qui m'a profondément bouleversée. Et donc inévitablement, j'avais un petit peu ces retours d'il y a 8 ans que j'essayais malgré moi de comparer en fait avec ce que j'étais en train de vivre. Et si je suis tout à fait honnête, j'avais aussi pas mal d'appréhension en fait à l'idée de peut-être pas ressentir ce qui m'avait tant bouleversée il y a 8 ans. Et je crois que je me l'avouais pas trop avant de revenir, j'étais tellement excitée à l'idée de revenir en Inde que je me disais pas « Ah, tu vas comparer, est-ce que là je vais arriver à toucher cette énergie qui est si incroyable en Inde ?» Et je pense que celles et ceux qui sont amoureux de l'Inde comprennent ce que je dis. C'est vraiment une énergie plus forte que nous qui nous emporte et qui fait que ce pays a, je sais pas, une touche de spiritualité, une émulsion de tous les sens qui fait que, waouh, on est pris dans les tripes. Et en fait, je me suis dit, ah, peut-être que je vais pas retrouver ça. Peut-être que je l'ai idéalisé avec le temps, 8 années se sont écoulées, et en fait, je me suis peut-être fait mes films et c'est pas si ouf que ça, quoi. Et donc, inévitablement, quand je suis arrivée dans le sud de l'Inde, j'ai commencé à comparer, en fait, par rapport à ce que j'avais vu il y a 8 ans. Et très vite, je me suis dit, non, mais Victoria, ne compare pas, c'est une toute autre expérience, là. Reviens dans ce pays avec un regard tout à fait neuf, comme si tu n'y avais jamais été. Et qui plus est, on m'avait beaucoup dit que le sud était très différent du nord. Et là, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment ressenti, puisque le climat, déjà, est beaucoup plus humide et à la fois chaud. Les paysages sont complètement différents. C'est beaucoup plus vert, il y a beaucoup plus de nature et de nature luxuriante. Il y a moins de pollution quand même dans le sud et c'est un petit peu moins pauvre. Donc voilà, il y a vraiment un climat de paisibilité que j'ai trouvé hyper hyper agréable dans le sud du pays. Donc voilà pour l'arrivée en Inde où on est resté une semaine à Cochin. Et après, tout est allé très 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 vite, puisqu'en fait, l'Inde, c'est le pays dans lequel on a concentré la quasi-totalité de nos tournages pour le documentaire Shimla. Donc en lien avec des solutions de personnes, d'associations, de collectifs qui œuvrent pour préserver l'eau. Donc ça faisait voilà, des mois qu'on échangeait par visio, par mail avec ces personnes-là aux quatre coins de l'Inde et on attendait avec impatience de les rencontrer. Et donc là, enfin, l'Inde, c'était la concrétisation de mois de travail. Donc on était hyper, hyper excités et à la fois, ça nous a demandé d'être hyper concentrés et de faire beaucoup de déplacements en Inde puisque les projets sont aux quatre coins de l'Inde. Et donc ce mois et demi a été très intense. Pour supporter cette intensité, on a fait venir Aubin. Donc Aubin, c'est le monteur de notre documentaire. Et il est venu supporter les tournages puisqu'il est aussi vidéaste, donc il s'est très bien filmé, mieux que nous, pour qui ce n'est pas le métier. Et ça nous a permis vraiment de nous concentrer, nous, sur l'aspect logistique et aussi sur le dialogue qu'on crée avec les personnes qu'on rencontre, parce que c'est très difficile d'arriver à la fois à créer un dialogue, à faire la rencontre et en même temps à filmer. Et de faire ces choses-là, et ces quatre choses, même si on rajoute la logistique en simultané, c'est vrai qu'avec Johan, c'était une charge mentale qui était assez grosse pour nous depuis le départ. Et là, d'avoir Aubin qui est arrivé pour ce mois de tournage en Inde et qui a pris le relais sur tout l'aspect vidéo, ça nous a vraiment déchargé d'une charge mentale incroyable. Et ça nous a permis de beaucoup plus vivre le moment, de ne pas réfléchir à est-ce qu'on a bien enregistré, est-ce qu'on a posé la bonne question, etc. Mais de juste penser à ce lien humain qu'on est en train de créer avec la personne qui est en face de nous. Et vraiment, ça a fait toute la différence. Ça nous a vraiment permis de profiter de l'Inde à 3000%. Et du coup, pour un petit point d'étape, on a rejoint Aubin à Coimbatore, donc juste après Cochin, donc le Kerala, après le sud de l'Inde. Et de Coimbatore, on a rejoint notre premier projet à Malikundam. Donc là, on a vécu pendant 5 jours au cœur d'un village indien, à dormir sur le sol, à vivre vraiment au rythme des habitants. Et c'était donc notre premier gros tournage. C'était fantastique, vraiment le temps s'est étiré, je sais pas ce qui s'est passé avec le temps ces 5 jours-là, mais ça a été vraiment vraiment intense. Je vais pas spoiler tout le film, mais on a vraiment été accueillis d'une façon juste tellement pas remplie d'amour, avec des fleurs, des câlins et tellement d'étoiles dans les yeux des habitants, c'était juste magique, mais voilà. Ça nous a un peu bouleversés et en fait on a à peine eu le temps de digérer ces rencontres et cette intensité à Malikundam qu'il fallait partir pour Calcutta où là nous attendaient d'autres projets et donc on a pris un train de 29h, je crois que c'est, oui c'est ça, 29h, donc à dormir dans le train et à laisser passer les paysages. Et ce qui est assez fou c'est qu'au début, donc là je vais faire une petite digression sur l'attente et sur le temps long. Au début, les trajets en train et dans les transports en général, j'essayais vachement de combler le temps. En mode, il faut que je lise, faut que j'écoute des podcasts, il faut que j'écrive, il faut que. Voilà, j'étais vraiment dans ce truc de rentabilise, entre guillemets, ton trajet. Et là, plus on avance sur la route, plus en fait je ressens pas le besoin. Même écouter un podcast, j'en ressens plus le besoin, j'ai juste envie de me foutre la paix, entre guillemets, de mettre une bonne musique et de laisser défiler les paysages. Et je vois qu'il y a tellement de pensées qui arrivent, de connexions qui se font, et en fait, le podcast, il se fait dans ma tête, quoi. Je crée plein de choses avec ma tête, et c'est trop, trop, trop plaisant. Et ça, c'est quelque chose que je faisais moins au début du voyage. Donc, je sais pas, c'est soit je suis rentrée là maintenant dans un peu une autre dimension au bout de 4 mois sur la route. Mais c'est vrai que les trajets, je les appréhende vraiment différemment par rapport au début. Donc là, ces 29 heures de train, au final, elles sont passées assez rapidement, comme une lettre à la poste, quoi. Puis on a passé la nuit aussi, donc ça a bien coupé. Donc voilà, après ces 29 heures de train, on est arrivé à Calcutta. Et là, ambiance vraiment tout autre, déjà beaucoup, beaucoup plus pauvre que le sud du Kerala. Et là, on avait deux nouvelles associations qu'on a rencontrées, dont une qui était dans le Sundarban, qui est la plus grande forêt de mangrove au monde. Toute cette intensité qu'on avait rencontrée à Malikundam pour le premier projet, eh ben, on l'a redécouverte avec de nouvelles personnes, un nouveau projet, une nouvelle adaptation, là, dans le Kerala, avec ce projet-là. Et en fait, ce mois-ci, ça n'a été que ça. Des moments où on rencontrait des personnes, on apprenait à les connaître, on s'attache, on vit des journées hyper intenses en émotions, en tournage, en tout, tout est hyper intense. On dit au revoir, on prend notre sac et hop, on recommence. Et on n'a même pas le temps en fait de digérer et de j'allais dire, on n'a pas le temps de se rendre compte. Je pense que si, on s'en rend compte quand même, parce que très souvent on se dit, waouh, tu te rends compte de ce qu'on est en train de vivre. Donc oui, on le réalise, mais par contre, le temps de digestion, juste, on l'a banni, quoi. On n'a plus le temps de digérer. Et pour cause, là, avec Yoann, on a le ventre qui est pris depuis pas mal de jours. Et je trouve ça assez symbolique parce qu'on arrive à la fin de nos temps en Inde et on n'est pas, tombé malade, en fait, depuis qu'on est parti. Et là, on se sent vraiment brassé du ventre, comme si littéralement, notre ventre ne voulait plus digérer. Comme si la coupe était trop pleine, qu'on avait trop vécu et que là, juste, on ne peut plus rien mettre, quoi. On ne peut plus rien ingurgiter. C'est marrant de faire ce parallèle-là. Et après après Calcutta, on a repris un train qui initialement devait il devait durer, je crois, 12 heures et on a mis 19 heures. Mais franchement, assez étonnée de la ponctualité des trains en Inde. Si je dois faire un petit récap, globalement, ils sont assez à l'heure. Je vérifie que ça enregistre bien, toujours. Ouais, c'est bon. Donc après Calcutta, qu'est-ce qu'on a fait ? Après Calcutta, on est remonté du coup à Kanpur pour un autre projet que je ne vais pas spoiler non plus. Je vais garder la surprise pour le film. Et ensuite, après Kanpur, on est remonté à New Delhi où on a passé 3 nuits avant de rejoindre la fameuse ville de Shimla. Et là, Shimla, pareil, on a logé chez l'habitant pendant 5 nuits. Et climat radicalement différent, beaucoup plus froid. Et en fait, on n'a vraiment pas eu de transition entre l'été du sud et l'hiver du nord de l'Inde. Et on n'est plus habitué à la chaleur parce que comme depuis 4 mois, on avance avec l'été sur le globe, en fait, on n'a pas du tout eu d'hiver. Et on a étiré l'été jusqu'à là, en fait, jusqu'à il y a 2 semaines. Donc début février. Et d'un coup, bam, on s'est pris l'hiver. Donc on a eu très froid dans les montagnes. D'autant plus qu'en fait il a neigé. Et ça c'est quand même un sacré truc puisque on est précisément allé à Shimla parce qu'on nous a dit qu'il neigeait beaucoup moins et qu'il pleuvait beaucoup moins qu'avant. Et il n'y a eu qu'une seule tombée de neige de tout l'hiver. Et la seconde tombée de neige, figurez-vous, elle est tombée la veille de notre arrivée. Donc en fait on est arrivé à Shimla, tout était enneigé. Et on s'est dit avec Ivan, mais c'est une blague, enfin... On vient pour dire qu'il neige plus ici, et il faut qu'il neige la veille de notre arrivée pour que pour les tournages, il y ait de la neige partout. Du coup, notre discours, il n'a plus de sens, puisqu'on dit, allez, on est parti de France il y a 4 mois pour montrer qu'il n'y a plus de neige à Shimla, et il a neigé. Donc ça, pareil, c'est un clin d'œil de la vie, je ne sais pas ce qu'elle a essayé de nous dire, mais voilà, il a neigé, et après, pendant 2 jours, on n'a eu que de la neige, en fait. Et on ne pouvait même plus sortir de la maison dans laquelle on était, parce que trop de verglas, trop de neige, en fait. Donc on a été un peu bloqué 2 jours et ça nous a permis aussi de réaliser qu'on était vraiment arrivé à Shimla, de créer de jolies connexions avec la famille qui nous accueillait. Puis ensuite on a pu rencontrer des agriculteurs pour faire un petit état de la situation avant de rejoindre New Delhi. Donc voilà, j'en viens à New Delhi depuis là où j'enregistre cet épisode sur cette terrasse ensoleillée. Et d'ailleurs le soleil est déjà bien descendu depuis que j'ai commencé à Rek. Donc voilà pour le petit point d'étape, ça fait 1 mois et demi. Qu'on est ici. Je sais pas trop encore ce que j'en retiens en fait. Parce que comme je le disais, il y a eu tellement d'intensité, tellement... J'essaie de prendre le temps du recul. Tous les matins, je fais ma petite méditation avant de commencer ma journée, mais je crois qu'en fait, j'ai même pas envie de réaliser parce que j'ai juste envie de manger et de prendre dans mes bras tout ce que j'ai à vivre ici. C'est juste magique en fait. C'est juste magique. Je sens que ça transforme plein de choses à l'intérieur de moi. Et à la fois, c'est lourd à porter tout ça et il y a encore tout le retour à faire. Donc cet épisode sort lundi, au bain par dimanche. Et c'est vrai qu'avec Yoann, ça nous met un petit coup de savoir qu'on va se retrouver que tous les deux, qu'au bain rentre en France et que nous on reste encore et qu'on a 1 mois et demi à gérer. Où on va devoir reprendre la caméra et regérer toute la logistique et qu'il y a encore beaucoup en fait à préparer. Mais on est juste trop excités et je sais pas, j'ai l'impression que je suis rentrée dans une autre dimension du voyage maintenant où au début j'étais encore quand même assez rattachée à la France. Je ressentais le besoin de parler souvent à mes proches, enfin souvent, régulièrement. Et là, plus je m'abandonne au voyage, plus je trouve les ressources en moi et les connexions se créent. Je vis tellement intensément l'instant présent que je me sens beaucoup moins... J'ai l'impression que la France est une autre partie de moi, une autre version de moi-même Et je sais pas, c'est comme si ça serait tricher, en fait, d'écrire à mes proches ou de m'éloigner un petit peu de ce que je suis en train de vivre en me rattachant à la France. Du coup, je ressens moins le besoin, en fait, de raconter ce que je fais au quotidien à mes proches. Je le raconte différemment via mes posts Instagram que j'écris tous les jours depuis qu'on est arrivé en Inde, depuis le 1er janvier. Mais tout ce qui est appels, vocaux, etc., je les espace de plus en plus parce que je sens que j'ai juste envie de m'abandonner à ce que je vis, quoi. Et depuis que je suis dans cet état-là, je crois que je me sens mieux. Ouais, c'est paradoxal, mais tout prend une autre dimension. Donc voilà. Enfin, je vais terminer cet épisode en parlant du retour qui nous attend. Donc on a fait deux tiers de cette aventure Shimla. Il reste quand même un tiers à faire et pas des moindres. Et là, il y a une grande réflexion que j'ai sur Shimla en tant que telle, en fait. Shimla, c'était la destination qu'on attendait. Comme si c'était l'objectif ultime, sauf que ça n'a jamais vraiment été l'objectif. Je pense que Shimla, c'était... J'ai écrit ça dans un post sur Instagram. Pour moi, Shimla, c'était le prétexte pour partir. C'était l'élan qui nous permettait de hop, prendre notre sac sur le dos, partir et dire aux gens pourquoi on y allait. Mais au final, il y a cette phrase un petit peu voilà, qu'on voit partout de « ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin ». Et là, vraiment, cette phrase, elle prend tout son sens et on la ressent, on la comprend, puisque tout ce qui fait ce voyage, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui construit le documentaire, au final, c'est tout ce qu'il y a eu avant Shimla, c'est tout ce qu'il y a eu sur la route et c'est tout ce qu'il y aura sur le retour. Et je pense que ça vaut pour à peu près tout dans notre vie. On attend toujours le truc, l'objectif, la date, la rencontre pour commencer quelque chose, alors qu'en fait, bien souvent, c'est tout le processus qu'il y a avant cet objectif ultime qui est intéressant. Quand j'ai préparé mon marathon, j'en parle souvent, mais voilà, il y a cet objectif du marathon, mais en fait, toute l'aventure, c'est la préparation. Et c'est l'après aussi. Comment on vit après cette aventure, qu'est-ce qu'on en retient, quelles leçons nous a un petit peu plus fait grandir. Et c'est tout ça qui fait finalement un projet, et c'est pas juste l'objectif en tant que tel. Et donc là, je suis hyper heureuse de savoir qu'il y a encore tout le retour qui nous attend, avec plein de pays à traverser, que je vais détailler. On va passer par le Tibet. Et je suis tellement heureuse, c'est un rêve de gosse de passer au Tibet. J'en parlais, je crois, dans mon dernier récit d'aventure, justement. Mais il y a que deux points de passage, en fait, pour rejoindre... Donc on aimerait rejoindre la Chine depuis l'Inde. Et il y a que deux points de passage. Il y a celui par le Pakistan et celui par le Népal et le Tibet. Et celui du Pakistan, on ne peut pas le prendre puisque c'est la plus haute frontière au monde, ou une des plus hautes frontières du monde, si je ne veux pas dire de bêtises, qui est à plus de 4000 mètres d'altitude. Et donc l'hiver, elle est fermée, puisqu'elle est gelée. Donc là, il n'y a qu'une option possible, c'est celle de traverser le Népal et le Tibet. On est obligé de faire une traversée encadrée, donc c'est une traversée qui va se faire en 4 jours, où on va être suivi par un guide. Et on va traverser donc voilà, tout le Népal, tout le Tibet, ça va être... Mais je veux pas imaginer ce que ça va être, juste je vais me laisser surprendre, mais ça va être quelque chose, ça c'est sûr. Et puis ensuite, on va traverser toute la Chine et rejoindre la Mongolie, traverser toute la Mongolie. Et puis de la Mongolie, on va rejoindre la ville de Oulan-Udé en Russie pour... prendre le Transsibérien. Donc ça c'était pareil, c'est un rêve de gosse, traverser la Russie en Transsibérien, ça va être complètement, complètement, complètement dingue. Et depuis Moscou, après on rejoindra l'Europe tranquillement. Il y a des gens heureux en bas. Et puis après, retour en France, quoi. Donc là on a un peu plus d'un mois et demi de voyage qui nous attend pour le retour, donc on prévoit d'être là fin mars, voilà, plus ou moins. Sachant qu'il faut que je sois rentrée à tout prix pour le mois d'avril, puisque, big annonce pour celles et ceux qui ne suivent pas sur Instagram, mon deuxième livre donc sortira chez Fayard le 17 avril. Donc je suis trop excitée et à la fois je réalise pas du tout qu'il y a ce projet immense qui m'attend à mon retour en France, mais pourtant c'est bel et bien le cas. Donc je suis trop heureuse après de retrouver la Victoria de France quand j'aurai terminé cette petite parenthèse de vie. Et pour le moment, il y a encore un mois et demi d'aventure à vivre, les bras grands ouverts, et je me réjouis trop, trop, trop de cette vie, de toutes ces connexions, de tous ces projets. Vraiment, je passe ma vie à dire à Yoann que je suis trop heureuse. Et je pense que c'est important de se le rappeler, et plus on se le rappelle, plus on l'est. C'est un peu comme des aimants et l'optimisme, quoi. Plus on est optimiste, plus on attire l'optimisme, et plus il y a des folies qui se créent. Et là, j'ai vraiment l'impression, pendant ce voyage, de renouer avec cette part de moi, de démonter en fait la positivité, parce que je me sens tellement heureuse tous les jours, même si bien évidemment il y a des jours où c'est très compliqué, où il y a des remises en question, comme tout dans la vie. Mais j'ai le sentiment que j'arrive plus à prendre du recul sur ces états-là et à plus me lâcher la grappe aussi. C'est-à-dire que quand il y a des jours où je sens que je suis peut-être un peu moins joyeuse et que j'ai besoin de repli, d'intériorisation, ben je l'accepte et je trouve aussi du bonheur dans cette mélancolie. Et ça, c'est trop beau et ça fait partie de la vie. Donc voilà, petite note philosophique pour terminer cet épisode. J'espère que vous allez très bien, que vous souriez, que vous traversez bien l'hiver. Je sais combien le mois de février est challengeant puisqu'on arrive à la fin de l'hiver et les jours sont courts, il fait pas très beau, le soleil nous manque et c'est parfois pas des semaines très très agréables à passer. Donc je vous envoie tout mon courage. Je vous envoie du beau soleil de New Delhi, même si un peu pollué. Et puis, c'est trop chouette de faire ce petit point d'étape. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici le prochain récit d'aventure. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes et pour tout plein de belles choses de la vie. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.